Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halouk Mangi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Et ses alliés ont annoncé ce jeudi le retrait de leurs forces déployées au Mali pour combattre le terrorisme. 9 ans après le lancement de l'opération Serval, ces troupes restent tout de même au Sahel. Les autorités françaises et leurs partenaires invoquent des conditions politiques, opérationnelles et juridiques non réunies pour poursuivre leur engagement. Ce départ est annoncé alors que le Mali diversifie ses partenaires. Quelle analyse de ce retrait de Barkhane et ses alliés? Quelles peuvent en être les implications? Les nouveaux partenaires peuvent-ils les remplacer? Studio Tamani pose le débat avec Modibo Mao Makalou, il est économiste, docteur Mariam Sidibé, enseignante-chercheur, et Mohamed Mamata Touré, membre du mouvement Anko Mali. Pour présenter ce débat, je suis Sekou Gadjigo. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Je le disais à l'instant, la France et ses partenaires européens, mais aussi le Canada, ont annoncé aujourd'hui qu'ils vont quitter le Mali. Je veux dire, leurs troupes vont quitter le Mali. 9 ans donc après le lancement de l'opération Serval qui a permis de barrer la route au groupe djihadiste. Aujourd'hui, la France parle de 4 à 6 mois d'un retrait coordonné. Aujourd'hui, avec Aïssata Diarra, nous allons voir les détails de cette déclaration faite ce matin par les dirigeants européens.
La force française Barkhane et la force européenne Takuba vont quitter le Mali. Les dirigeants européens et leurs alliés du Canada expliquent cette décision par les multiples obstructions des autorités de transition maliennes. Selon eux, les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme. Toutefois, ces pays affirment qu'ils restent déterminés à soutenir le Mali et sa population dans leurs efforts pour obtenir une paix durable et la stabilité. Le chef d'État français a précisé que ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Menaka et de Gao. Ces fermetures se feront de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali, ajoute Emmanuel Macron, tout en précisant que le retrait des troupes françaises prendra 4 à 6 mois. Selon l'état-major français, 2500 à 3000 soldats français resteront toujours au Sahel après le retrait du Mali.
Alors, c'est l'actualité du jour. Hein. La France, un partenaire important du Mali dans la lutte contre le terrorisme, décide avec ses alliés de se retirer. Selon le président français, les troupes françaises et européennes vont quitter le Mali dans les 4 à 6 mois à venir. D'abord, je voudrais vous demander à vous, Mao Makalou, Modibo Mao Makalou, quelle analyse faites-vous de cette décision?
Écoutez, il y a eu une conférence de presse au niveau de l'Élysée qui a expliqué un peu, le président français Macron a expliqué un peu les conditions de retrait de la France, qu'il a justifié en disant que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne seraient plus réunies au Mali. Donc l'Europe et ses partenaires, le Canada en l'occurrence, ont décidé de se retirer du Mali, mais pas de quitter le Sahel. Mais en plus, il a rajouté une seconde partie, c'est-à-dire que la coopération serait étendue aux États du Golfe, de Guinée et à l'Afrique de l'Ouest. Donc je veux dire que c'est une réorganisation, mais ce qui n'a pas été expliqué de manière explicite, c'est en fait le désaccord entre les autorités de la transition du Mali et les autorités françaises par rapport non seulement à l'opération Barkhane qui sévit au Mali, mais aussi à Takuba qui se projetait au niveau des trois frontières dans la région du Liptako-Gourma.
D'accord. Docteur Sidibé Mariam, c'est vrai que ça avait été annoncé, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que ça a été un peu accéléré?
Comme tous les Maliens, nous avons appris aujourd'hui ce plan de retrait. qui se dessinait de toutes les façons au vu des évolutions des événements ces dernières semaines. Et quelque part aussi, il y avait de toutes les façons une réorganisation du dispositif militaire au Sahel qui était déjà prévu, même si à l'époque on ne parlait pas de retrait, on parlait de réorganisation quelque part, parce que le dispositif tel que pensé présentait certaines limites de par l'évolution du conflit, les acteurs et surtout la zone du conflit, maintenant où on parle de nouvelles zones de prévention de conflit, ce qui peut peut-être justifier aussi le fait que M. le Président Macron parle de la zone nouvelle, de la zone Golfe de Guinée qui peut être dans le même dispositif. Après, la question, c'est qu'on vient d'apprendre la nouvelle. Je pense que c'est un peu hasardé d'avoir tous les commentaires sur cette nouvelle, parce que jusque-là, si ce retrait progressif a été annoncé pour une période de 4 à 6 mois, nous ne savons pas comment cela va se faire concrètement, comment cette réorganisation va se faire, quel serait le pays qui va abriter les troupes françaises et ses partenaires, si ce n'est plus le Mali, et comment le dispositif de coopération sécuritaire va se faire, parce qu'on ne peut pas, en fait, cantonner la question de l'insécurité au seul cas du Mali, sachant que les dynamiques, les frontières sont poreuses. On ne peut pas sécuriser les pays limitrophes du Mali et ne pas sécuriser le Mali. Je pense que ces deux États souverains qui ont voulu avoir une coopération militaire poussée, l'État, c'est une continuité. Les autorités, peut-être nulles, les autorités, à l'époque, il y a 9 ans, ont fait appel à la France pour venir les appuyer dans la lutte pour la sécurité au Mali, quand il y avait une forte montée des groupes armés. Et si ces mêmes autorités pensent aujourd'hui ne plus avoir besoin des services de la France et des partenaires, ont toute la légitimité de demander le retrait. Mais après, il est assez tôt pour tirer toutes les conséquences de ce retrait et surtout de maîtriser quels peuvent être les impacts directs ou indirects sur le Mali et surtout les pays de la sous-région, parce que la question n'est pas que le Mali, la question intéresse aussi les pays frontaliers du Mali.
D'accord, nous allons tout de même aborder cet aspect des impacts, quels peuvent être les impacts et les implications que ce retrait pourrait avoir. Mohamed Mamata Touré, on l'a dit, hein, la France avance quelques arguments, parmi lesquels des obstructions de la part des autorités de la transition actuelle. Est-ce que vous êtes convaincu par ces arguments pour justifier ce retrait-là?
Bon, ça, ce sont les arguments des autorités françaises. Ils ont dit leurs arguments. Si les autorités maliennes aussi essayent d'avancer leurs arguments, nous allons avoir deux arguments différents qui vont se confronter. Donc, à ma façon de voir les choses, moi, je dirais tout simplement que l'opération française a échoué au Mali, sinon dans le Sahel. Du fait que depuis que la France est venue, ça fait 9 ans. Pendant 9 ans, vous n'avez pas pu mettre fin à ce terrorisme. Pendant 9 ans, les Maliens vous soupçonnent d'être en complicité avec ces forces du Mal. Pendant 9 ans, nous sommes en train de constater la destruction des villages, les enlèvements de bétail, et puis des personnes qui sont prises en otage souvent ou exécutées. Donc maintenant, qu'est-ce que nous autres, nous allons dire? Nous allons dire qu'il y a une main cachée derrière ces terroristes qui sont là. Donc maintenant, encore, cette déclaration de la France, vous savez, c'est pour nous un aveu que le président français est en train de faire. Et si la France avait assumé qu'elle avait échoué depuis longtemps, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Il fallait voir les choses et puis faire une réorganisation de la situation sécuritaire ou du maintien des forces françaises dans le Sahel, pas qu'au Mali seulement. Donc, leurs discours ou leurs arguments, ça n'engage que, et nous avons d'autres façons de voir les choses différemment.
D'accord. Modibo Mao Makalu, nous avons vu un moment, en tout cas, nous sommes toujours dans ce contexte de brouille diplomatique entre le Mali et la France. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, on va vers une rupture militaire? Et si c'est le cas, où est-ce que ça pourrait nous conduire?
Bon, nous sommes dans une zone de turbulence au niveau des relations diplomatiques, mais je ne pense pas que nous soyons au bord de la rupture. Parce que je crois qu'il y a des canaux d'échange jusqu'à présent. Le fait que les accords de coopération, il ne faut pas l'oublier, nous avons signé quand même 2 accords de coopération très importants, c'est-à-dire le Mali et la France. Ce sont des accords de coopération en matière monétaire et en matière de défense.
ces accords n'ont pas été dénoncés, hein, à ce que je sache. Parce qu'il y a, dans tous les accords, il y a des clauses de retrait. Ce n'a pas été le cas, comme le 20 janvier 1961, lorsque le président Modibo Keïta demandait aux troupes françaises d'évacuer les bases militaires, quatre bases militaires au niveau du Mali. Mais ce que je pense aussi, c'est que, en fait, je pense qu'il y a, on est en train d'occulter quelque chose parce que le Mali fait partie de la politique intérieure française, notamment les élections présidentielles à venir sous peu. Je m'explique. Vous avez une diaspora malienne très importante en France, peut-être la plus importante d'Afrique au sud du Sahara. Mais en dehors de cela, le fait qu'il y ait eu... en fait, pas vraiment un succès éclatant au Sahel de l'intervention militaire française. Parce que vous savez, moi j'ai suivi cette question dès le départ, parce qu'à l'époque j'étais encore à la présidence quand l'intervention prenait place. Il s'agit, nous avons argumenté, des gens, enfin, ce que je pense, c'est qu'il fallait une intervention ciblée et puis limitée dans le temps. Mais la France s'est embourbée au Sahel, elle s'est ensablée au Sahel. Vous savez, actuellement, le Sahel, il y a 25 000 militaires présents dans les différents pays du Sahel et 40% de ces effectifs, 15 000 militaires étrangers, se trouvent au Mali, 40%. Mais après quand même, cette partie, mais l'armée nationale, elle a un rôle, elle a le devoir régalien d'assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Donc, si nous sommes dans la coopération, c'est que vous appelez des partenaires à venir vous aider, à vous suppléer. Mais on ne soustrait pas sa défense, on ne soustrait pas sa sécurité. Il faut un partenariat. Et je pense avoir compris que le président Macron a compris le message, parce qu'il a parlé d'un nouveau partenariat il parle de jeter les bases d'un nouveau partenariat basé sur le respect, mais aussi sur les besoins des pays qui vont en faire la demande. Je pense que ça, c'est nouveau, et je pense aussi que le fait qu'on ait activé non seulement le G5, qui regroupe les cinq pays, Mauritanie, Mali, Burkina, Niger et Tchad, mais aussi maintenant l'initiative d'Accra, qui regroupe les cinq pays côtiers, en l'occurrence le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana. Donc en réalité, je pense que le redéploiement ou la réorganisation de ces forces, parce que ce que Macron a pu réussir, c'est une sortie, ce qu'on appelle « exit strategy », une stratégie de sortie du bourbier malien. Et je pense que maintenant qu'il a la tête, il est à la tête de l'Union européenne, il a internationalisé la présence française au Sahel. Parce que maintenant, Takuba devait servir de paravent pour cela. Mais maintenant, avec le Canada et cette déclaration conjointe, c'est de prendre l'Europe comme l'intervenant au niveau du Sahel et mettre la France en retrait en attendant que les élections présidentielles se passent en France.
Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il a réussi à sortir de ce bourbier du Sahel, puisqu'il ne va pas quitter le Sahel? D'après ce qu'il a dit.
Non, il ne va pas quitter le Sahel. Il va faire semblant de quitter le Mali parce que 4 à 6 mois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les trois bases, Gossi, Gao et Menaka, soient évacuées dans les 6 mois ou même dans l'année à venir. Donc, moi, ce que je pense, c'est un subterfuge. Et aussi, le redéploiement des forces étrangères. On parle du Niger comme pour accueillir dans un premier temps. Mais aussi, on est en train de démarcher les pays du Golfe de Guinée pour que... les autres forces puissent être accueillies là-bas. D'accord. Mais lui, ce qu'il veut, c'est isoler le Mali, mais en même temps s'envelopper d'une aura internationale, en tout cas d'un paravent international, parce qu'il a la présidence de l'Union européenne. Les 27 pays de l'Union européenne sont avec lui maintenant, plus le Canada. Et en termes économiques et militaires, parce que vous savez, la France et avant le Royaume-Uni, avant qu'il ne se retire de l'Union européenne, sont les bras armés de l'Union européenne.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Docteur Sidibé, quand Modibo Makalou parle de bourbier dans le Sahel, est-ce qu'on peut dire que la France s'est trompée de stratégie en venant combattre le terrorisme ici? Si c'est le cas, d'abord, nous constatons qu'il y a une erreur, mais on remarque qu'elle décide aussi d'étendre cette lutte-là au niveau des pays du Golfe également. Est-ce que vous comprenez cette stratégie des autorités françaises?
Ben, moi, je ne vois pas le verre à moitié vide, je le vois à moitié rempli. Mmh. Voilà. Et ça, c'est un élément. Et l'autre élément...
À moitié rempli au Mali, ici?
De manière générale, sur la situation.
Mmh, d'accord.
De manière générale, sur la situation.
Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Touré quand il dit que c'est, ça a été un échec?
On n'est pas... Je pense que c'est une stratégie à l'époque qui répondait à l'aspiration aux attentes des autorités de la situation telle qu'elle se présentait il y a 9 mois, mmh. il y a 9 ans. Mmh. Mais il ne faut pas oublier que le conflit a évolué. Les acteurs du conflit ont évolué et même la zone du conflit a évolué. Le conflit qu'on voyait cantonné sur la zone du Liptako-Gourma, on voit de plus en plus les pays hors cette zone être concernés par le conflit. Mmh. Les derniers éléments au Bénin peuvent témoigner cette extension de la zone du conflit qui nécessite une réorganisation. Les dispositifs tels que pensés et mis en place il y a 9 ans ne peuvent plus être le même dispositif applicable actuellement au Sahel. D'où la nécessité de repenser et de réorganiser tout cet arsenal militaire au Sahel. Ça, c'est un élément que moi, je pense nécessaire à analyser. L'autre élément, je suis d'accord avec lui, c'est que la réponse militaire uniquement au Sahel n'est pas suffisante. Elle présente ses limites. Il faut autre chose qu'une réponse militaire pour la problématique du Sahel. Et je pense que c'est quelque chose qu'on se rend compte, on est presque unanime, qu'il faut revoir cette réponse au Sahel en mettant à nu certaines problématiques qui ne sont pas que militaires, mais qui participent autant au processus de stabilisation du Sahel. Donc, quelque part, le dispositif répondait aux aspirations et aux réalités qui se présentaient il y a 9 ans. Ces réalités ont évolué, le conflit a évolué. Il est clair maintenant que ce dispositif nécessite d'être réanalysé.
D'accord. Mais est-ce que ce retrait peut-il avoir des conséquences? Est-ce que ce retrait peut avoir des conséquences sur le plan sécuritaire?
C'est ce que je dirais, en fait, que l'exercice de commenter l'actualité politique est beaucoup plus des politologues.
Quand vous
que des
analysez la situation dans le Sahel et le Mali.
La situation, là, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui est derrière ce retrait, comment la réorganisation va se faire. Pour avoir une analyse complète, il aurait fallu qu'on sache où cette force-là serait redéployée et comment la coopération va se construire. Parce que je vois mal la sécurité du Mali ne pas être traitée par les partenaires et qu'ils se limitent à traiter la sécurité des pays voisins. Sachant que la sécurité de ces pays dépend du Mali. Le Mali se trouve au cœur du Sahel avec 7 frontières. Donc, quelque part, on peut pas s'hasarder à isoler le Mali. Parce que les frontières sont poreuses. Quand on regarde même les populations, elles partagent des réalités socio-anthropologiques, des réalités culturelles. Il y a des liens de mariage, des liens de cousinage qui existent pour avoir travaillé sur la région de Tillabéri. Mais on ne se rend pas compte de la différence qu'on soit au Mali ou qu'on soit au Niger. Donc, quelque part, quelles que soient ces stratégies, il y a certaines réalités du terrain qui ne peuvent pas être gommées. On ne peut pas sécuriser le Niger, la région de Tillabéri, et laisser l'insécurité au Mali. C'est illogique.
D'accord. Oui. C'est-à-dire, l'Union européenne a fait une déclaration pour dire que la réorganisation est en cours et devrait s'achever en juin 2022. Donc, madame a totalement raison qu'on ne peut que spéculer pour le moment parce que c'est en cours.
D'accord.
Monsieur Makalou, d'être d'accord que c'est un processus qui est en cours, dont peut-être l'évolution dépendra aussi de la réalité, de l'évolution de la relation diplomatique entre ces États. Ce n'est pas inhabituel qu'une relation diplomatique se refroidisse entre deux États. Ça peut prendre des années avant de se réchauffer. Mais après, c'est des réalités des relations internationales dont il faut tenir compte. Et une fois de plus, les États sont tenus par les intérêts. Il y a des jeux d'alliance qui se font et rien ne nous dit que cette situation ne va pas prendre d'autres tournures, d'autres logiques.
Donc il ne faut pas exclure une possibilité de revoir les relations, revenir au beau fixé avant ces 6 mois-là.
Ces pays sont liés sur plusieurs plans. La coopération n'est pas que militaire entre ces pays. Il y a une réalité, plusieurs réalités, même historiques, qui nous lient. La diaspora présente au Mali, les programmes d'aide au développement et tout type d'appui qui est là. Mais aujourd'hui, quand on parle de coopération, l'aspect militaire a tendance à prendre le dessus parce que c'est cet aspect qui est médiatisé. Alors qu'au-delà de l'aspect militaire, il y a tout un type de coopération existante qui ne sont jusque-là pas concernées par ces dispositions.
D'accord. On va en parler quand on va aborder l'aspect cette diversification des partenaires. Est-ce que ces partenaires pourront convenablement remplacer la France et ses alliés qui décident de quitter le Mali. Mohamed Mamata Touré, on l'a dit, la France, pour le moment, elle est présente à Ménaka, le Force Barkhane à Ménaka, à Gossi et à Gao. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali a la possibilité, avec son armée ou bien avec d'autres partenaires, de prendre la relève dans ces zones-là, en cas de départ?
Vous savez, vu la densité de la superficie du Mali, nous n'avons ni les moyens, ni les hommes, ni les équipements pour pouvoir remplacer cette force française qui tend à quitter notre sol.
Ouais, mais vous dites qu'elle a échoué.
Mais elle a échoué. L'échec ne veut pas dire que de le renvoyer. Elle peut échouer, mais on peut encore revoir la situation, la façon dont ils doivent travailler. L'échec, là, c'est ce qu'on dit toujours, la France est un mal nécessaire. Mais un mal nécessaire que si on le laisse partir comme ça, est-ce que le mal-là, ça ne sera pas encore plus pire que ce mal-là? Parce que vous savez une chose, moi, ce n'est ni les autorités maliennes qui ont fait en sorte que la France parte, ou bien les autorités françaises, mais c'est la rue qui a fait que la France a pris cette position. Et la rue de Bamako a enflammé la situation un peu partout dans la sous-région. Donc tout le monde dit que la France est le problème du Mali, sinon la France est le problème de tout le Sahel. Donc maintenant les autorités françaises, eux aussi, ils sont sous pression de la population française aussi qui avait demandé il y a très longtemps le retrait de leurs forces du Mali. Donc les autorités se sont entêtées à rester ici. Il faisait des résultats, mais tout n'était pas rose, mais tout n'était pas aussi noir. Ils ont fait des exploits. Mais en matière diplomatique, comme nos autorités le disent toujours, il y a certaines situations, surtout ce cas-là, il fallait discuter ça dans la diplomatie. Donc essayer de voir les changements qu'il faut y faire. Le ministre des Affaires étrangères avait dit qu'ils ont fait des suggestions d'amendements à la France. Maintenant, que la France, il faut que la France voie ces amendements qu'eux, ils les ont envoyés. Mais au cas où la France ne réagit pas vite, donc eux, ils vont prendre les dispositions. Mais ces dispositions-là, avant que la France ne les réponde, donc maintenant, la réponse a tardé. Donc la France, le président Macron, comme il est en campagne, donc pour se faire une popularité ou bien pour faire une récupération, donc maintenant, il n'a autre choix qu'à procéder comme ça. Parce que vous savez, d'accord, depuis que les autres candidats français se sont alliés derrière Macron pour soutenir Macron du fait qu'il a eu des divergences avec les autorités maliennes. Donc ça a donné encore un autre poids à Macron. Donc il était obligé d'agir ainsi.
D'accord. Le docteur Mao Makolo, quelles peuvent être les implications de ce retrait? Qu'est-ce que ça peut impliquer, le retrait de ces forces-là?
Mais les forces, parce que comme vous le savez, c'est... En réalité, Barkhane, hein, ce sont les autorités françaises qui ont initié Takuba et qui ont réussi à en faire une opération européenne des forces spéciales. Mais c'est pas beaucoup, c'est 800 personnes. Donc la moitié est composée des forces spéciales françaises, 400 personnes environ. Mais c'est-à-dire que la France, comme mon voisin Monsieur Touré vient de le dire, la France s'est sentie piégée. Et je reviens sur la stratégie de sortie du bourbier malien pour la France. Le président Macron ne savait pas comment quitter le Mali. Il était en difficulté. Il y a une campagne présidentielle qui arrive. Et il a profité de cette occasion d'étant à la tête de l'Union européenne et en exacerbant, parce que les bisbilles diplomatiques, les écarts de langage de certaines autorités françaises envers les autorités de la transition du Mali, moi, je refuse de croire que ce n'était pas suscité ni provoqué. C'était de la provocation pure et simple.
Donc vous pensiez que la France cherchait à quitter le Mali depuis longtemps?
Mais bien sûr.
Mais le pays ne représente pas un enjeu aussi important pour lui pour qu'elle décide de quitter le pays.
Ce que j'essaie d'expliquer, maintenant, l'idée, c'est d'essayer d'isoler le Mali. Parce que maintenant, vous voyez, la semaine dernière, Mme Van Leyen, de la Commission, la présidente de la Commission de l'Union européenne, a annoncé un partenariat stratégique pour les infrastructures d'environ 150 milliards d'euros pour l'Afrique. Tout cela, c'est pour contrer la Chine et les États-Unis, parce que les États-Unis, Joe Biden et son équipe ont annoncé qu'ils venaient en Afrique aussi. Tout le monde va venir en Afrique. Maintenant, c'est aux Africains de définir les contours de leur coopération. Je vais vous dire une chose, la coopération, c'est quand vous appelez les partenaires autour de vous, mais c'est le pays qui doit coordonner la coopération. Et c'est le pays qui doit demander aux partenaires d'harmoniser leur procédure ou leur position par rapport à leur intervention dans un pays.
D'accord.
Parce que si vous ne faites pas cela, vous n'allez jamais savoir qu'est-ce que les partenaires font chez vous et vous n'allez jamais être dans le fauteuil du conducteur.
Mm-hmm.
Donc c'est cela qui est important et c'est ce que nos autorités essayent de faire maintenant, avoir la mainmise sur la coopération.
Mm-hmm.
Parce que tenez-vous bien, au début de l'indépendance, tout le monde a cru que le régime... La première république était une république socialiste, mais si vous prenez le plan quinquennal, le plan de développement économique et social sur la période 1961-1965, le premier partenaire, c'était la Russie, avec 23% des apports, et le deuxième partenaire, c'était la France, avec 17% des apports, et le troisième partenaire, c'était la Chine, avec 16% des apports. Donc le Mali a toujours travaillé avec la Russie, la France et d'autres partenaires. Et c'est au Mali de choisir ses partenaires.
D'accord,
en fonction de ses besoins.
Par rapport aux implications, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ces forces-là se retirent, est-ce que ça pourrait amener la France et ses alliés-là à suspendre des projets, des financements?
Mais c'est déjà fait. L'aide budgétaire, la France est notre premier partenaire bilatéral, je vous le souligne.
Mmh.
Et l'Union européenne est notre premier partenaire multilatéral.
Mmh.
L'aide budgétaire a déjà été suspendue
oui.
depuis la fin de l'année dernière.
Ça, c'était avant que...
Et dans la loi de finances, c'est-à-dire le budget 2022, il n'y a aucun appui budgétaire général qui soit annoncé par les partenaires au développement. Et vous savez que notre déficit budgétaire que nous avons, c'est-à-dire que nos dépenses budgétaires sont supérieures à nos ressources budgétaires depuis 1960, sont suppléées et on emprunte soit sur le marché économique et monétaire de l'Union européenne, et les apports des partenaires. Parce que généralement, à partir d'octobre, ce sont les partenaires qui suppléent notre budget et qui financent 60% de nos investissements publics.
D'accord. Docteur Sidibé, on parle assez de partenaires. Hein. Le Mali est en train de les diversifier. On a vu ces derniers jours le ministre des Affaires étrangères qui a fait le tour de certains pays. Nous voyons de nouveaux partenaires qui arrivent, hein, comme le Qatar, l'Iran. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces partenaires-là peuvent faire pour le Mali dans cette situation?
En tout cas, tout d'abord, je me permets de revenir sur deux petits points que M. Touré avait signalé tout à l'heure.
Oui.
Qui finalement ne voit pas le verre à moitié vide, le voit presque à moitié plein comme moi, parce que de l'échec qu'il parlait au début, finalement, admet qu'il y a quelques points positifs à retenir. Même s'il y a des choses à revoir, tout n'était pas négatif dans cette coopération. Ça, c'est déjà un point. Et aussi, l'autre point qui est important dans ce qu'il dit, c'est que le dialogue est nécessaire entre les deux parties. Donc l'ouverture du dialogue à la fois du côté du Mali que du côté des partenaires extérieurs est plus que nécessaire et que c'est ce qui va se dessiner forcément les jours à venir parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation où, sans dialogue. Donc ça, c'est bien que ces deux points soient mis en exergue. Après, pour ce qui est de la diversité des partenariats, moi, je veux juste rappeler qu'au Sahel, l'une des difficultés a été une multiplicité d'acteurs qui interviennent sans une coordination véritable des actions des uns et des autres. Ça, c'est la première difficulté. L'autre difficulté, c'est que la multiplicité des partenaires, qu'est-ce que cela peut impliquer? Cela peut impliquer le fait que chaque partenaire ou chaque État qui arrive, arrive avec son agenda et ses priorités. Donc, on va se retrouver avec une multiplicité d'agendas et de priorités, sachant que ces partenaires n'ont pas forcément les mêmes lectures ou les mêmes besoins d'État que nous. Et leur agenda est fortement en décalage avec la réalité de l'État et la réalité du Malien. Et ce déphasage peut ne pas être bénéfique à la population. Donc, quelque part, il ne faudra pas forcément voir cette multiplicité d'acteurs comme étant le salut, mais que ça soit un moteur où c'est le Mali finalement qui tient les manettes. C'est ce que tout à l'heure M. Touré disait. Il faut qu'on soit à la position du conducteur. Que ces nouveaux acteurs qui viennent avec leur agenda ne nous soient pas imposés. La complexité aussi de la crise au Mali, c'est que nous avons eu une communauté internationale qui pensait à tort avoir la lecture de la crise au malienne en occultant les réalités socio-anthropologiques, les réalités de l'État, les réalités du fonctionnement de cet État et les réalités même du Malien. en pensant à tort que nous sommes dans une reconstruction post-conflit du Mali, alors que nous sommes encore dans une dynamique de crise non résolue.
Justement, en parlant de ces réalités-là, est-ce qu'en négociant ces partenariats-là, est-ce qu'on met en avant ces réalités et les intérêts de ces populations?
Mais justement, c'est une question auquel il serait difficile de se prononcer, parce que jusque-là, nous n'avons pas, en fait, de communication officielle sur le cadre de partenariat qui lie le Mali à chacun de ses nouveaux partenaires qui viennent. Encore moins pour les partenaires précédents. Donc, on n'a pas, en fait, de visibilité parfaite sur les conditions qui amènent, ou les conditions d'installation de ces partenaires au Mali. Quel est le prix à payer par le contribuable malien? On n'a pas de réponse à ces questions. Tant qu'on n'a pas de réponse à ces questions, il serait hasardeux pour le Malien de dire que finalement, tel partenaire est mieux que l'autre partenaire. Sachant qu'une fois de plus, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ce sont les intérêts, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit tout type d'intérêt, ce sont les intérêts d'abord qui motivent la relation d'État en État. D'accord. Et tant que nous n'avons pas une visibilité claire sur les intérêts, les motivations de chaque nouveau partenaire, je mettrai des réserves.
D'accord. Mohamed Mamata Touré, je le disais tantôt, il y a beaucoup de partenaires maintenant. Hein, la Russie, même si officiellement, la Russie dit que sur le plan militaire, quand même, elle n'est pas présente au Mali. Mais en tout cas, on a vu le ministre malien des Affaires étrangères en Russie qui a annoncé des partenariats dans beaucoup de domaines. L'Iran, le Qatar, la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces partenaires-là peuvent remplacer convenablement la France et ses alliés?
Vous savez, ce n'est pas d'avoir beaucoup de partenaires qui veut dire réussite ou victoire. La diversification, il faut tenir compte des clauses des contrats qui vont lier les deux États. Si nous appelons tous les États du monde à venir au Mali, et sur quelles conditions? Quelles seront les clauses? Et quand la France venait, les contrats qui avaient été signés avec la France, Qui connaît le contenu de ces trucs? Nous avons même eu des députés qui disent qu'ils n'ont jamais vu le truc de l'accord de défense. Les gens ont interprété ça n'importe comment. Donc maintenant, il faut que les autorités s'assument s'ils diversifient les partenariats, que ce soit des partenariats vraiment visibles, des partenariats vraiment sérieux, des partenariats vraiment gagnant-gagnant. Et il ne faut pas qu'ils essayent de nous dire que la Russie va venir, on va les attribuer tel puits de pétrole, telle ressource minière, telle chose en catimini et nous n'en sommes. Il faut voir le problème de l'entreprise russe qui est là, que la France qualifie de Wagner, dont Poutine dit que c'est une entreprise qui est là. Et nos autorités disent qu'il n'y a pas de Wagner, qu'il y a des formateurs. Donc la chose, elle est tellement complexe et tellement floue que nous ne parvenons même pas à se retrouver dedans. Donc vu cette complexité, donc il est temps à ce que les autorités, vraiment, ils essayent de faire le bon choix de partenaire. Et quel partenaire va évoluer dans telle ou telle zone et avec quelles conditions? Avec l'arme, ils vont évoluer seuls ou bien ils vont évoluer avec l'armée malienne? Donc il y a beaucoup de points dont il faut tenir beaucoup compte. Il ne faut pas qu'ils se jettent dans quelque chose pour dire qu'on a fait des contrats avec l'Iran, avec la Russie, des choses comme ça. Personne ne viendra mourir pour le Mali. C'est aux Maliens de s'assumer et puis de mourir pour le Mali. Parce que nous, là, comme on dit, sous-traiter notre sécurité, là, vraiment, ça ne fait pas nous notre honneur, ça ne fait pas l'honneur de nos autorités militaires qui sont à la tête de ce pays aujourd'hui. Nous voulons des dignes fils du Mali qui s'assument, qui prennent les armes et qui vont pour exécuter ce qu'ils ont fait comme serment. Ils ont juré devant le peuple et devant le peuple malien qu'ils vont défendre l'intégrité du territoire et sécuriser les personnes et leurs biens. On ne peut pas amener des partenaires pour se cacher derrière ces partenaires. Il faut que nous amenions ces partenaires si nous évoluons ensemble, où nous allons nous mettre devant et ils vont rester derrière nous. C'est de ce partenariat que nous voulons.
D'accord. Mouribou Mahoumakalou, ces partenariats-là, est-ce que on ne doit pas mettre le peuple au courant de tout ce qui se passe, des accords qui sont signés, ou bien il y a certains domaines où on doit être beaucoup plus discret?
Non, il faut être réaliste. Hein. Il y a le souhaitable et il y a le réalisable. Moi, ma petite expérience me démontre quand même que les accords de partenariat passent en Conseil des ministres, mais doivent être ratifiés par le Parlement. Mais il y a toujours des clauses secrètes dans certains, surtout en matière de défense. Il y a des clauses qui ne sont pas rendues publiques. Évidemment, tout dépend de la gouvernance du pays. Vous savez, c'est-à-dire, si vous êtes en régime démocratique, évidemment, l'accès à l'information doit être public, et tout ce qui concerne les politiques publiques, elles doivent être décortiquées, et l'action gouvernementale est quand même contrôlée par le Parlement. Et jusqu'à présent, nous avons un organe, le Conseil national de transition, qui fait office d'organe législatif. Et d'organes législatifs, est-ce qu'ils contrôlent l'action du gouvernement au jour le jour? Bon, ça c'est une autre question par rapport à l'équilibre et à la séparation des pouvoirs.
Oui, mais est-ce que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons vu que nous sommes dans une crise, nous sommes en transition, dans une période transitoire, et les gens se sont beaucoup plaints des accords précédents passés avec d'autres partenaires, mais est-ce qu'aujourd'hui, même sans le CNT, ce n'est pas nécessaire que les autorités essayent d'être beaucoup plus transparent avant de sceller certains partenariats?
Je pense que nous devons faire confiance à nos autorités. Vous parlez de transition, donc vous parlez d'une période courte. Et nous sommes dans l'urgence maintenant, parce que le problème de sécurité, si, soyons réalistes, regardons la superficie du Mali. Quand la France arrivait, quelle était la partie du territoire qui était en insécurité? C'était l'extrême nord. Mais maintenant, nous avons deux tiers du territoire qui est en insécurité. C'est Mouras qui disait que toute politique se juge par ses résultats. Donc la réponse militaire de la France et en tout cas de la communauté internationale a été un échec au Mali. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous voyez les trois pays du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, le nombre de morts, on parle d'une vingtaine de milliers de morts, de plusieurs milliers, de plusieurs centaines, sinon de millions de déplacés. Mais en quoi cela peut contribuer à rassurer les populations? Mais ce que j'ai quand même compris dans le discours d'aujourd'hui du président Macron, c'est qu'il a parlé de changement de paradigme. Parce qu'il a parlé que la position des partenaires avait évolué au Sahel. Mais je pense que c'est surtout dû au fait que les opinions publiques sahéliennes ont montré leurs exaspérations. Parce que vous savez, les défaites militaires vont toujours être accompagnées de soubresauts politiques. Et cela se ressent non seulement dans nos pays, vous avez vu les changements de régime, mais ça risque de rejouer sur la présidentielle en France.
D'accord. Docteur Sidibé, Mariam, ces partenariats, vous l'avez dit, on ne sait pas comment ils sont négociés, mais est-ce qu'on peut savoir s'ils profitent réellement au pays?
Vous avez répondu vous-même partiellement à la question en disant que on ne sait pas comment ces partenariats sont négociés, quelque chose dont on ne connaît pas l'ensemble du contenu. Est-ce qu'il ne serait pas trop hasardeux que ça profite ou pas à un pays? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de transparence. C'est vrai que la transparence est ce qui est souhaitable, comme il le dit M. Makalou. Mais au-delà de ce qui est souhaitable, il y a aussi ce qui peut être classé du secret défense ou du secret d'État. Ça, c'est la partie obscure que nous, on n'aura pas accès en tant que citoyens lambda. Mais toujours est-il question que la pression dont en fait, on parle que cette pression qui est exercée n'est pas exercée seulement sur au Mali. On voit que c'est la même dynamique un peu présente au Burkina, au Niger à des moindres degrés, parce que là, c'est à peu près le schéma est beaucoup similaire dans ces pays. Mais cette pression aussi, elle est valable pour les dirigeants. Nous avons une démocratisation de l'information. Nous avons une certaine libéralisation de la parole. Le citoyen malien se sent concerné. Ce qui se passe, c'est que nous avons développé une forme de résilience. Nous avons des États qui se sont construits dans la crise. Le Malien est habitué aux difficultés d'accès aux services sociaux de base. Il n'y avait pas d'école pendant plusieurs mois. Les enfants restent à la maison. On n'a pas accès aux hôpitaux, on a recours aux médecines traditionnelles, on n'a pas accès à l'alimentation équilibrée. Il y a une sous-alimentation, mais la population développe toujours une forme de résilience. Mais c'est quand le déterminant sécuritaire s'ajoute que la population n'a pas de plan B. On peut développer une résilience face à tout, sauf l'insécurité, parce qu'on n'a pas la capacité de se sécuriser nous-mêmes. D'où cette grogne sociale qui monte. On se rend compte que ces mouvements sont toujours précédés par une forte augmentation de l'insécurité. Et tant que nos États ne seront pas détenteurs du monopole de la violence au sein de leur territoire, tant que l'offre du service de sécurité telle que demandée à juste titre par les citoyens ne sera pas donnée, on aura toujours cette pression sur les dirigeants qui, par extension, peut interpeller les relations bilatérales entre les autres États. Donc, quelque part, N'ayant pas le contenu total de ces accords, on ne peut pas dire aujourd'hui que ces accords soient profitables ou pas au Mali. Mais une chose est sûre, c'est que quelque part, nous sommes obligés de faire confiance à nos dirigeants, à condition qu'aussi on ait les gages nécessaires, que ce sera toujours l'intérêt du peuple malien qui sera au-dessus et qu'on arrivera à transcender les clivages politiques ou autre type de clivage qui mime la classe politique, où on assiste à une rupture de confiance entre le citoyen et le politique et aussi entre le citoyen et les forces de défense et de sécurité. Ce qui ne sont pas aussi des éléments nouveaux, mais qui se sont accrus au fur et à mesure qu'on s'enlise dans le conflit.
D'accord. Mohamed Mamata Touré, on l'a vu, hein, ce départ a été précédé par des tensions diplomatiques. Généralement, quand il y a des tensions entre les États, c'est sur le plan diplomatique qu'on essaie de résoudre la question. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ramener, pour que ces relations-là puissent revenir à la normale et que le Mali et la France aient de bonnes relations de coopération comme on l'a connu par le passé, quoi. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui?
Ce qui peut être fait, c'est d'arrêter ce bras de fer et avec la sous-région et avec les
comment l'arrêter?
Mais nous, nos autorités, ils disent que en matière diplomatique, ils peuvent se parler, ils peuvent se dire des choses et ils peuvent négocier et puis s'entendre. Mais pourquoi ne pas aller autour d'une table de négociation ou de dialogue? Le président de la transition, il a toujours prôné, il a toujours fait appel au dialogue. Mais pourquoi on ne va pas vers le dialogue? Ce bras de fer-là, ça ne nous grandit pas, ça ne nous avance nulle part. Qu'on fasse 1000 ans comme ça, on finira par négocier, par discuter et puis par venir autour d'une table avec les différents partenaires. Donc ça ne sert à rien de continuer sur
Mais est-ce que ces partenaires aussi, on n'a pas l'impression qu'ils n'écoutent pas les Maliens?
Non, ce n'est pas parce que ces partenaires n'écoutent pas les Maliens. Parce que,
par exemple, quand on a vu la mobilisation qu'il y a eu ces derniers temps, quand on entend certains partenaires dire que c'est toujours de la manipulation, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré?
C'est pourquoi je dis que ce n'est pas les autorités maliennes qui ont soulevé tout ce mouvement-là. C'est la rue qui l'a fait. La cause, c'est la rue. Bon, ils vont dire qu'il y a une main cachée derrière cette rue parce que c'est des gens qu'ils voient dans des institutions du pays qui sortent pour dire des choses et qui ne sont pas interpellés par les autorités aussi. Donc, chaque fois que des choses se passent dans ce pays, on dit chaque fois qu'on a appris par voie de presse, soit par Facebook, soit par voie de presse. Donc, un État ne se gère pas par les réseaux sociaux ou par voie de presse. Donc, à un certain moment donné, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités en main, en mettant fin à certains comportements de nous, populations, qui croyons les soutenir, alors que nous les créons plus de problèmes que de solutions.
D'accord. Moudoubou Mahomakolo, même si vous estimez que l'optimisme doit rester de mise, est-ce que aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour que voilà, ces relations ne se détériorent pas davantage? Parce que ce retrait, plus les tensions diplomatiques, voilà, on est au bord du...
Nous avons vécu une crise en 2012 et ensuite nous avons vécu une transition qui a abouti à des élections. Et moins de 10 ans après, on se retrouve encore avec une crise sociopolitique, politico-institutionnelle, encore avec une transition. Ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Donc il faut résoudre les problèmes dans leur cause. Et tant que la gouvernance est malmenée au Mali, vous savez, le président Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie indépendante, disait que chaque fois que l'État perd sa vitalité, l'armée va vouloir jouer un rôle. Et nous sommes dans ce registre-là aujourd'hui, cette transition. Mais encore faut-il, comme mon voisin M. Touré vient de le dire, résoudre les problèmes de malgouvernance.
D'accord.
C'est-à-dire comment nous gérons et administrons notre pays, il faut que les mêmes causes produisant les mêmes effets dans les mêmes circonstances, il faut que la gouvernance change, qu'on aille vers une gouvernance plus vertueuse.
D'accord.
Et des responsables quand même qui vont être redevables devant les populations.
D'accord. En deux mots, Dr Sidibé, est-ce que les partenaires du Mali aussi ne doivent pas revoir leur lecture, reconnaître qu'ils se sont trompés d'analyse sur la situation du pays?
Je ne dirais pas qu'il y a eu erreur sur la situation du pays. Il y a eu des évolutions. Et ces évolutions amènent nécessairement à une relecture de tous ces dispositifs. Cette relecture ne peut se faire que dans le cadre d'un dialogue construit, comme mes deux collègues le disent tout à l'heure. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait une volonté ferme des deux côtés, que chacun veuille rester campé sur ses positions. C'est nécessaire d'aller vers une forme de souplesse, mais cette forme de souplesse aussi doit être des deux côtés. Il faudrait qu'on arrive à comprendre que nous sommes dans un jeu de relations internationales, qu'un État ne peut pas se construire tout seul et qu'on a besoin des organisations sous-régionales et même de la coopération internationale. Tout comme aussi cette communauté internationale a besoin du Sahel et du Mali pour pouvoir assurer leur sécurité. Déstabiliser le Mali, vous verrez que les conséquences sur les pays voisins sont catastrophiques. Sur l'Occident, c'est les mêmes vagues de migration qui vont déferler sur l'Europe, qui ne pourront pas contenir. C'est les mêmes mouvements de groupes armés ou autres types de mouvements terroristiques qui peuvent être développés à partir du Sahel et déstabiliser l'Europe. D'accord. Donc les intérêts sont liés et le dialogue est nécessaire.
D'accord, le dialogue est nécessaire et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue. On parlait aujourd'hui du retrait annoncé des forces françaises et européennes du Mali. À quoi peut-on s'attendre après ce retrait? Nos invités étaient Dr Mariam Sidibé, elle est enseignante-chercheure, Modibo Mahou-Makalou, économiste, et Mohamed Mamata Touré du mouvement au Mali. Cette émission a été présentée par Sekou Gadjigo, mise en onde par Gagny Kanté. À la régie vidéo, il y avait Salim Diouara. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro du Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.